Michaël Refait, mon grand invité aujourd'hui dans la grande interview de Smartech. Bonjour Michaël, merci
Bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes le délégué général de France Data Center. Vous défendez notre écosystème français de centres de données. Une centaine de sociétés sont rassemblées derrière France Data Center, c'est ça ?
Alors, un peu plus aujourd'hui. On a beaucoup grandi. On est près de 150 entreprises aujourd'hui.
D'accord. Et ça représente quoi en chiffre d'affaires ?
Plusieurs dizaines de milliards, voire centaines de milliards, sachant qu'on a une chaîne de valeur qui est très large, avec des acteurs qui se concentrent uniquement sur l'exploitation de data centers, mais on a aussi des équipementiers, des acteurs de la construction, des architectes, des sous-traitants. Donc c'est difficile de vous donner une vision globale du chiffre d'affaires de la filière qui embarque beaucoup d'autres secteurs.
Et là, on parle de chiffre d'affaires en France. Hein,
tout à fait.
Vraiment.
Tout à fait. On est une infrastructure industrielle qui est implantée en France avec tout un écosystème local.
Alors, par le passé, vous avez travaillé au ministère de l'économie et des finances, où vous avez été un des artisans de la stratégie nationale pour le cloud et le quantique. Alors, je me disais, de votre point de vue aujourd'hui, maintenant que vous êtes sorti de ces ministères, comment est-ce que vous regardez la politique nationale de la France, et puis au regard aussi du nouveau contexte géopolitique, vous vous dites, il y aurait quand même des choses à revoir ?
Alors, je la regarde avec bienveillance parce que je me rends compte qu'on n'est pas passé à côté des révolutions technologiques qui sont les nôtres et on n'est pas passé à côté des vrais chantiers numériques de notre siècle.
Mais on n'a pas constitué de champion pour l'instant dans le cloud, Michaël, non plus. On n'est pas passé à côté, mais...
Alors, on a néanmoins des champions.
Non.
On a des champions
c'est
français,
vrai.
On a des champions européens, on a des acteurs qui sont capables de répondre à beaucoup de demandes de beaucoup de clients en France. On a, comme vous le savez, un grand champion en IA qu'on essaye de faire grandir également.
Oui.
Mais moi, l'industrie que je représente, on a des champions d'envergure mondiale et notamment nos équipementiers qui exportent massivement. Et moi, je suis ravi de représenter une filière qui n'a pas à rougir aujourd'hui.
Alors justement, si vous me lancez sur l'intelligence artificielle, parce que vous avez été aussi le négociateur français, l'un des principaux négociateurs, sur la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Justement, notre champion français Mistral aimerait bien qu'on s'assouplisse un petit peu sur les règles qui s'imposent de manière... trop importante dès le départ pour l'écosystème français.
Effectivement, la logique et la vision qui a également été la nôtre par le passé, c'est de dire n'ayons pas la main trop lourde et ne régulons pas trop vite une technologie qui doit d'abord se découvrir, trouver ses clients et voyons dans un second temps comment réguler les effets de cette technologie qui, effectivement, et néanmoins, vous l'avez vu, évolue très vite.
Ouais.
Et donc, ce cadre réglementaire, il est aussi là pour...
Ça a
pour...
été difficile, les négociations. Hein. La France avait du mal à faire entendre cette voix, justement.
Alors, il n'y avait pas que la France. Il y avait les États membres et donc le Conseil qui cherchaient effectivement à avoir une régulation relativement souple pour que les écosystèmes se développent. Et le Parlement européen qui était dans une posture plus englobante vis-à-vis des risques de l'intelligence artificielle.
Ouais, donc, vous voyez d'un bon œil, là, cette procédure d'assouplissement aujourd'hui, j'imagine.
On voit d'un bon œil tout ce qui est de nature à simplifier et à faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse s'implanter sur le territoire français, européen, être attractive et développer une intelligence artificielle sur notre sol, évidemment.
Ça colle bien avec vos recommandations, les 19 recommandations que vous avez remises au gouvernement au mois de mai 2026, où vous réclamez donc pas mal de choses, mais si je devais résumer, c'est véritablement... Laissez-nous progresser, travailler, grandir, grossir, accélérer sur l'implantation des data centers.
Alors, on ne réclame rien, on co-construit et on est content de la dynamique qui est la dynamique actuelle et la manière dont on a travaillé avec le gouvernement sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose une simplification parce qu'aujourd'hui, dans notre marché, l'enjeu principal, c'est la vitesse d'exécution. Donc, il faut effectivement qu'on puisse accélérer, notamment sur le plan administratif. On ne demande pas de détricoter le droit. On demande simplement de nous aligner sur ce que font nos partenaires européens. Ensuite, on demande également une accélération des raccordements parce qu'aujourd'hui, un autre problème, c'est notre capacité à acheminer un électron le plus rapidement possible à une infrastructure industrielle. Et donc, c'est... Un des gros enjeux de ce chantier de l'électrification, c'est accélérer les procédures de raccordement.
Comment est-ce qu'on fait pour les accélérer ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ?
Alors, c'est une question qui est complexe, parce que il y a évidemment la question de la simplification administrative, donc tout ce qui relève du papier à tamponner, etc. Donc ça,
des démarches au niveau local, régional, national.
Tout à fait. Et donc ça, il faut pas le détricoter, il faut simplement l'optimiser. Et ensuite, il y a une question plus complexe, qui est une question technico-économique de comment on fait pour gérer une file d'attente de demandes de raccordement qui est en train de se saturer. Jusqu'à présent, la manière dont nos gestionnaires de réseau fonctionnaient, c'était sur la base d'une logique de premier arrivé, premier servi.
Oui.
Et aujourd'hui, on essaye de faire changer cette logique à une logique de premier prêt, premier servi. Alors, ça devient vite un petit peu complexe, mais c'est vraiment le nerf de la guerre.
Il faut pouvoir prouver qu'on est le premier prêt.
Exactement, c'est-à-dire qu'on est prêt à recevoir un électron et qu'on est prêt à l'utiliser.
Est-ce qu'on risque pas, dans cette logique-là aussi, de favoriser toujours les mêmes géants, finalement ?
Alors,
ceux qui ont les moyens d'être prêts très très vite ?
Non, je pense pas, parce que aujourd'hui, par exemple, il y a une dynamique qui est très forte dans le data center de proximité.
Oui.
C'est pas forcément des géants, c'est des acteurs locaux qui localisent les données justement au plus proche des utilisateurs. Et ces acteurs-là peuvent être prêts avant ou en même temps que des grands acteurs. En fait, le fait d'être prêt, c'est pas nécessairement conditionné au fait d'être un géant en réalité.
Vous prenez en compte cette problématique, on va dire, de concurrence entre l'écosystème français que vous défendez, que vous représentez, et les acteurs étrangers qui arrivent aussi sur ce marché avec de grandes ambitions, hein, parce que notre électricité décarbonée est très séduisante pour les acteurs américains notamment.
Mais que ce soit les acteurs américains ou les acteurs étrangers, quand ils arrivent sur notre sol, et notamment en matière d'infrastructures de données, ils font vivre tout un écosystème. Je vous parlais des équipementiers, on parlait des énergéticiens juste à l'instant, des sous-traitants, des bureaux d'études. Tous ces écosystèmes-là, c'est des écosystèmes qui profitent de ces investissements.
Et à l'inverse, dans le sens inverse aussi.
Bien sûr, mais ça fait partie de l'attractivité française et il faut s'en réjouir.
Oui. Oui, on peut s'inquiéter aussi de se dire finalement la France est en train de devenir un produit sur lequel on s'arrime pour accéder à ces matières premières.
Alors moi je vois pas les choses comme ça. Je me dis surtout qu'on est en train de construire les greniers à grains de la donnée dans notre économie de demain, que si ça se fait pas chez nous, ça se fera ailleurs, et qu'il faut se réjouir d'avoir au plus proche de notre territoire, nos assets stratégiques, notre propriété intellectuelle, nos données personnelles, se dire que peut-être que dans 15 ans, dans 20 ans, dans nos économies de services, l'essentiel de la valeur ajoutée sera créé dans un data center, et que donc il faut se réjouir d'en avoir chez soi des data centers.
Oui, mais alors justement, si on parle de la valeur ajoutée, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui de cette économie des data centers comparé à la valeur ajoutée qu'en tirent justement ceux qui exploitent les data centers? Il y a une grande différence.
Alors,
c'est très inégal.
Mais alors, c'est très inégal parce que c'est une chaîne de valeur qui est très grande, effectivement. Donc, il y a la chaîne de valeur du logiciel que je ne représente pas.
Bien sûr.
Moi, je représente une industrie qui s'implante sur le territoire. Et à nouveau, je vous parlais de cette chaîne de valeur. La construction d'un data center qui prend plusieurs années bénéficie à nos acteurs nationaux de la construction. Les équipementiers qui viennent structurer en équipement actif un data center sont des acteurs implantés sur le territoire français. Ça a été rappelé lors des annonces de Choose France récemment. Hein. Notre gros équipementier français va construire une usine en France et il faut s'en réjouir.
Vous réjouissez de l'investissement de SoftBank qui a été annoncé
Et de Schneider Electric, de fait.
Ok, très bien. Et en termes d'emploi, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui,
dans
data center? Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait quelques visites de data center, je me suis dit, il n'y a pas grand monde.
Alors, la question de l'emploi, elle est complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que le data center a beaucoup évolué dans le temps. Aujourd'hui, on a encore beaucoup une image de boîte à chaussures avec un agent d'entretien, un agent de sécurité et juste des serveurs qui fonctionnent tout seuls. Ça, c'est le data center du passé. Aujourd'hui, la manière dont un data center se construit.
L'année dernière encore, hein, je vais vous dire, moi, je...
Bah, quand vous voyez les campus qui sont en train de se construire, vous vous rendez compte qu'un campus avec des clients qui viennent opérer leur système d'information, coder, faire des réunions stratégiques, bref, un écosystème qui s'émule autour de ce grenier à grains de la donnée que j'évoquais, c'est très différent de la vision du passé. Aujourd'hui, on estime qu'on emploie à peu près 50 000 à 60 000 personnes sur le territoire français.
D'accord. Autre sujet sur l'énergie, parce qu'on est quand même soumis aussi à des directives d'économie d'énergie. Comment est-ce que tout ça peut être compatible avec l'exigence d'accélérer sur la construction de data centers très gourmands en énergie ?
Alors, sur la question de l'énergie, moi, une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est revenir dans le passé et se dire... Ça fait 25 ans ou 30 ans que nos capacités de calcul, chaque année, sont en train de doubler. C'est une loi physique qui s'appelle la loi de Moore, oui. Vous êtes peut-être familière. Donc on a une courbe qui est exponentielle sur la capacité de calcul et qui s'observe d'année en année. Il n'a échappé à personne que la courbe associée à ce doublement en matière de consommation énergétique n'est pas une courbe exponentielle. C'est une courbe qui est haussière, certes, mais faiblement linéaire. Comment expliquer ce delta ? Ce delta, il s'explique par le fait que chaque année, depuis des années maintenant, on n'a pas attendu que les pouvoirs publics viennent nous demander d'être exemplaires, chaque année, la filière a investi des dizaines de milliards, des centaines de milliards pour optimiser sa performance énergétique. C'est le moment où la contrainte environnementale rejoint la contrainte de marché, au sens où à peu près 30% des postes de coûts d'un data center sont liés au coût de l'énergie. Donc, assez spontanément, la filière a tendance à optimiser ce poste de coût.
Oui, c'est vrai que c'est ce que nous expliquent depuis longtemps hein, les opérateurs de data center. Ils ont tout intérêt à réduire leur consommation d'énergie. Le fait est que plus on va installer des data centers, plus ils sont importants, plus on va mettre de la puissance de calcul sur le territoire français, plus il y aura des tensions quand même sur les questions environnementales. Et on le voit déjà, des maires s'opposent aujourd'hui à l'arrivée de data centers, y compris en Île-de-France.
Alors moi, ce que je vois surtout, je vais vous répondre en franchise, hein, sur le territoire, c'est beaucoup de maires et
qui réclament.
Qui réclament, en tout cas, qui sont contents de voir des friches industrielles qui sont revitalisées, une attractivité, des investissements massifs. Donc,
vous ne pensez pas que ces tensions vont...
Néanmoins, ces tensions, elles existent. Hein. On les voit, mais moi, majoritairement, ce que je vois, c'est des maires et des élus locaux qui sont contents de recevoir des data centers sur leur territoire. Pour ce qui concerne...
Parce que ça génère... justement, qu'est-ce que ça génère comme bénéfice d'avoir un data center sur son territoire ? Est-ce qu'on sait le mesurer, vraiment ?
Alors,
qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme chiffre ?
On sait dire déjà, ça crée des revenus fiscaux pour les collectivités, ça crée de l'emploi, ça crée une émulation industrielle, économique, écosystémique quand le data center fonctionne. Ça revitalise des espaces industriels et des friches industrielles au demeurant qui étaient laissées à l'abandon. Donc oui, ça fait plein de choses pour le territoire.
D'accord. Ah, je vous laisse continuer, pardon, sur les tensions qui existent sur ce sujet environnemental et qui devient un sujet politique même au niveau local, hein, le data center.
Oui, effectivement. Et je pense que sur le volet environnemental, moi j'aime rappeler qu'on est une filière au niveau français qui est assez exemplaire. Et beaucoup de problématiques sont bien souvent importées des États-Unis. Je vous donne un exemple parmi d'autres, c'est l'exemple de l'eau. Oui. On nous dit beaucoup, le data center, c'est très gourmand en eau, assèche des fleuves, des nappes phréatiques, etc. En réalité, en France, ça n'existe pas. C'est une problématique qui peut exister dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Mais en France, la filière a fait un choix technologique de ne pas refroidir ses data centers avec de l'eau. Si bien qu'aujourd'hui, les statistiques sont assez implacables. On consomme en France, sur l'ensemble des prélèvements, tous secteurs confondus, 0,0023% de l'ensemble des prélèvements.
C'est les chiffres de quoi de...
C'est les chiffres de notre régulateur, donc ce n'est pas des statistiques qu'on sort de notre chapeau.
Quel régulateur, c'est quoi ? C'est l'ADEME ?
C'est l'ARCEP.
L'ARCEP, d'accord.
Voilà. Et donc la question de l'eau est assez emblématique et paradigmatique des critiques qu'on nous fait qui sont parfois infondées. Pas tout le temps, hein. On sait se challenger aussi.
Donc, il va falloir faire beaucoup de pédagogie. C'est un sujet sur lequel le politique risque d'avoir du mal à convaincre, vous pensez ?
Je pense qu'en tout cas...
Vous avez eu des réponses, déjà des retours sur les 19 recommandations faites par France Data Center ?
Alors, il y en a certaines qui ont déjà été acceptées ou mises en œuvre. C'est-à-dire que la simplification administrative, elle est en cours, il y a un projet de loi qui a été adopté, on s'en réjouit et c'est très bien. La logique du premier arrivé... premier servi à la logique du premier prêt premier servi, c'est quelque chose qui c'est un chantier qui est complexe qui devrait atterrir dans les prochains mois, mais ça fait partie des mesures qui ont été acceptées. Néanmoins, je pense qu'il reste encore beaucoup de travail. On est aujourd'hui un territoire qui est très attractif au niveau européen, mais la concurrence est féroce, hein, notamment avec nos amis du nord de l'Europe, mais aussi avec l'Espagne, le Portugal, qui essaye d'être le plus compétitif possible. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on baisse notre garde et qu'on continue à tenir notre rang de place la plus attractive en Europe pour les centres de données.
Et est-ce que ça veut dire qu'il va falloir multiplier le nombre de data centers en France ou avoir des data centers plus grands, ou les deux
Les deux,
à quoi doit-on s'attendre là sur l'année qui vient ?
Les deux, le marché explose et il répond à une grande variété de besoins. Les besoins de l'économie du logiciel, donc du cloud, les besoins pour entraîner des algorithmes d'IA, les besoins pour faire de l'inférence une fois que ces algorithmes sont entraînés. Il y a des besoins plus marginaux, comme par exemple le minage de cryptoactifs, comme par exemple le calcul haute performance. Et donc, tout ça crée une variété de data centers qui fait que je pense que la tendance de marché est qu'on aura de plus en plus de gros data centers, mais aussi de plus en plus de petits data centers dans les villes, notamment au plus près des usages, des usages de la ville connectée, de la ville de demain, de la voiture connectée, de la télémédecine, qui nécessitent une forte proximité avec l'infrastructure de données.
Et puis, le contexte géopolitique qui fait qu'on a ce retour des données sur le marché français pour les entreprises, aussi de pouvoir faire du calcul au plus proche du centre décisionnel. Donc, vous imaginez, on est à combien de data centers aujourd'hui en France ? Vous en imaginez combien dans les années qui viennent ? Est-ce que vous avez déjà des perspectives ?
On a des chiffres, évidemment. Au niveau de la filière, on n'aime pas raisonner en nombre de data centers parce que ça ne veut un peu rien dire. Pourquoi ça veut rien dire ? Parce que, pour le dire trivialement, si on considère qu'un disque dur sous un bureau est un data center, eh ben, on a des milliards de data centers en France.
D'accord. Bon,
en réalité...
Donc en puissance.
On préfère raisonner effectivement en puissance installée. Mais pour vous répondre néanmoins, on considère qu'on a à peu près 350 data centers commerciaux sur le territoire français. C'est pas plus qu'ailleurs, hein. Nos amis allemands ou nos amis britanniques en ont plus de 500, 550. Aux États-Unis, il y en a plus de 5000. On est une place attractive parmi d'autres.
Hein. D'accord.
En termes de puissance installée, on parle de 750 mégawatts installés à date de l'an dernier et une projection à 2,3 gigawatts d'ici 2030. Cette projection, elle va forcément évoluer. On la met à jour chaque année et les annonces récentes nous laissent à penser qu'elles vont largement exploser.
Et en termes de puissance, la France se positionne comment ?
En termes de puissance électrique ?
Oui, de puissance offerte à travers nos data centers. Parce que vous disiez, les autres pays aussi ont beaucoup de data centers. Mais en termes de puissance, on est une offre équivalente aussi ?
En termes de puissance, on est la troisième place française.
Oui,
européenne,
vous voulez dire ?
Européenne, pardon, excusez-moi. On reste derrière les Allemands, on reste derrière les Britanniques. On est loin derrière les États-Unis, évidemment, loin derrière les Chinois.
Mais on pourrait faire la différence demain ?
On pourrait faire la différence. Et c'est pour ça que ce sujet de l'électrification et ce sujet de l'énergie est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nœud dans notre marché. Et on a la possibilité de devenir une puissance mondiale de l'intelligence artificielle grâce à l'abondance de nos électrons. Il ne faut pas qu'on loupe ce virage parce que c'est une chance offerte à la France de rester dans l'histoire numérique.
Merci beaucoup, Michaël Ruffet, d'être passé dans Smartech pour répondre à mes questions dans la grande interview. Je rappelle que vous êtes le délégué général de France Data Center. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smartech, votre émission que vous regardez sur la chaîne Bismart. On se retrouve dès demain.